Ce matin, j'aimerais partager avec vous un épisode un peu étonnant dans le livre des rois, qui met en jeu deux personnages particuliers, le prophète Élisée et le roi Joas. J'appellerai cet épisode l'épisode de l'arc et des flèches. Donc nous sommes dans le deuxième livre des rois, chapitre 13. Versets 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter, puis Élisée lui ordonna « Tends l'arc !» Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre du côté de l'est ». Joas l'ouvrit, puis Élisée commanda « Tire !» Et il tira. Élisée s'écria « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée ajouta « Prends maintenant d'autres flèches. » Il les prit, frappe contre le sol. Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara « Mais il fallait frapper 5 ou 6 coups. Alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. » Voilà, j'arrête ici la lecture. J'ai toujours été étonné de ce texte. J'ai toujours été un peu perplexe sur cet épisode-là. Donc, je rappelle, nous avons deux personnages. Le prophète Élisée, grand prophète devant l'Éternel. Le prophète Élisée a maintenant vieilli. D'ailleurs, il est malade, il va mourir. C'est ce que nous dit le texte. C'est un des plus grands prophètes de l'histoire. Qui est Élisée? C'est celui qui a succédé à Élie. Il a été le disciple d'Élie jusqu'à ce qu'il soit appelé à lui succéder. Il a vu les miracles d'Élie. Il a même vu Élie être emporté au ciel par les chariots de feu. C'est d'ailleurs cela qui lui a valu cette fameuse double part de l'esprit d'Élie. D'ailleurs, Élisée lui-même a opéré beaucoup de miracles. Tout de suite après la montée d'Élie au ciel, il a traversé le Jourdain à sec. Il a assaini les eaux malsaines qui étaient impropres à la consommation. Il a même assaini cette nourriture qui était dans cette marmite empoisonnée. Et puis, il y a eu l'épisode de la veuve à qui Élie a proposé de verser de l'huile dans les bocaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bocaux. Donc, elle avait ramassé autant de bocaux que possible pour pouvoir régler toutes ses dettes. Il a même opéré la résurrection du fils de la Tsunamite. La multiplication des pains également. On pense souvent à Jésus, bien entendu, quand on parle de la multiplication des pains, mais Élisée lui-même a vécu un épisode comme celui-là. Bien entendu, la guérison du général syrien, Naaman, qui était lépreux, et qu'Élisée, plutôt que le Seigneur, a guéri au travers du ministère d'Élisée. Et puis cette hache qui était tombée dans l'eau, qu'il avait fait flotter avec un morceau de bois. Et enfin cet épisode aussi, que j'aime beaucoup, où l'armée syrienne toute entière, avait été frappée d'aveuglement à cause d'Élisée. Voilà un peu pour ce personnage-là. Et puis le deuxième personnage de notre texte, c'est le roi Joas. Donc il est roi d'Israël, fils de Joachaz, petit-fils de Jéhu. Joachaz, père de Joas, était un mauvais roi. Il a entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il a entraîné la colère de Dieu contre Israël. Et Dieu les a donc livrés au pouvoir du roi de Syrie, Hazaël, de Ben-Hadad, qui était lui-même fils d'Hazaël. Au verset 4, il est dit ceci, donc le texte qui précède celui qu'on a lu tout à l'heure. Joachaz supplia l'Éternel d'apaiser sa colère. L'Éternel l'exauça car il avait vu comment le roi de Syrie opprimait Israël. Il envoya aux Israélites un libérateur pour les délivrer des Syriens. Dès lors, ils purent de nouveau vivre tranquilles chez eux comme autrefois. Mais ils ne se détournèrent pas pour autant des péchés dans lesquels la maison de Jéroboam les avait entraînés. Ils persistèrent dans cette voie. Le pieu sacré d'Achéra était même dressé à Samarie. De toute l'armée du roi, il ne restait à Joachaz que 50 hommes d'équipage de chars, 10 chars et 10 milliers de fantassins, car le roi de Syrie avait détruit le reste et l'avait réduit à l'état de poussière que l'on piétine. Quelle situation désastreuse! Le peuple d'Israël, donc Israël du Nord, hein, est dans une situation vraiment déplorable. Pour quelle raison? À cause de ses multiples infidélités vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Éternel, par la vénération de dieux étrangers. Ils ont adopté les dieux des peuplades qu'ils étaient censés détruire. Il est question du pieu sacré de la déesse Achéra qui était dressée à Samarie, un peu comme une insulte et une provocation à l'Éternel. Même du temps de Gédéon, il y a des siècles avant, il était déjà question de ce fameux pieu de la déesse Achéra. Il a même été exposé dans le temple de Salomon, vous imaginez, jusqu'à la réforme de Josias, donc le fameux bon roi qui a réformé toute la spiritualité d'Israël. Et Josias donc fera détruire ce pieu, le fera brûler et jeter dans la rivière du Cédron qui coule en bas de Jérusalem. Donc voilà, Joas est donc le fils de Joachaz. Et voyons ce qu'il nous est dit de lui. Il régna 16 ans à Samarie. Il persista dans la voie de ses pères et dans leurs péchés. On a envie de dire 16 ans de trop, hein. Un roi donc qui entretiendra l'idolâtrie, qui attisera continuellement la colère de Dieu et qui à terme conduira à la destruction d'Israël et à la déportation en Assyrie. Vous allez me dire, ben, ces deux personnages, Élisée et Joas, ils n'ont pas l'air d'être faits pour bien s'entendre. Et vous avez raison. D'ailleurs, Élisée avait déjà repris un roi d'Israël, venu le trouver avec le roi de Juda, et lui avait dit, si ce n'était pas par égard pour le roi de Juda, je ne te regarderais même pas. C'est pour dire l'animosité qu'il pouvait y avoir entre le prophète et ces rois pervertis qui régnaient sur Israël du Nord. On peut même être étonné que le roi cherche le contact avec Élisée. Il aurait pu dire, bon, je crois qu'Élisée, il a pas trop envie de me voir. Et pourtant, la vie réserve des surprises. Des choses arrivent sans qu'on l'ait jamais imaginé, n'est-ce pas? Ça vous arrive de découvrir quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé? Une situation qui vous semblait peut-être perdue à tout jamais? Peut-être une relation qui vous semble perdue à tout jamais? Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 3, n'est-ce pas, que celui à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. À lui soit la gloire. Donc, aussi imaginable que cela puisse paraître, cette rencontre a lieu, le grand prophète Élisée et ce mauvais roi Joas. Et Joas arrive, il voit ce prophète diminué, malade, un peu sur son lit de mort, et il se penche sur son visage et il pleure. Et qu'est-ce qu'il dit? Que répète-t-il? Il lui dit, mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. La traduction seconde dit, les chars d'Israël et sa cavalerie. Et c'est étonnant parce que c'est exactement la même phrase qu'Élisée avait prononcée quand il a vu Élie monter au ciel. Il a crié exactement la même phrase. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est un titre militaire qui qualifie l'homme de Dieu par cette métaphore. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui lui prend à Joas? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il s'est repenti? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Élisée ne le repousse pas. Il accepte même de prophétiser sur lui, même sur son lit de mort. Et il va y avoir deux gestes prophétiques. Par ces deux gestes-là, Élisée va lui faire connaître ce qui va se produire. Le premier geste prophétique, on va dire, c'est le geste de l'arc. Prends un arc et des flèches. Donc il obéit, se les fait apporter. Tend l'arc. Il obéit de nouveau. Et puis Élisée pose ses mains sur celles du roi. On peut considérer que c'est un peu comme un geste de bénédiction, comme un geste de paternité. Il l'accompagne physiquement dans ce geste prophétique. Ouvre la fenêtre du côté de l'est. On sait que la Syrie est à l'est du Jourdain et qu'elle domine toute cette région de la Transjordanie. Tire. Encore une fois, il obéit. On ne sait pas vraiment sur quoi il a tiré, ni à quelle distance. Il a juste tiré. Il a juste obéi. Il n'a pas vraiment engagé son intelligence, ni sa volonté, ni même sa force. Il a juste fait ce que le prophète lui a dit de faire. Bravo! Formidable! C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Eh ben voilà, c'est réglé. Une bonne chose de faite. N'en parlons plus. Eh ben si, justement. Parlons-en parce que c'est pas fini. Élisée va ordonner un deuxième geste prophétique. Cette fois, c'est le geste des flèches. On va appeler ça le geste des signes prophétiques des flèches. Cette fois, le roi doit prendre d'autres flèches et frapper contre le sol. Donc il frappe trois coups et s'arrête. Et Élisée lui crie dessus, il fallait frapper cinq ou six coups. Parce que alors, tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent, tu ne les battras que trois fois. Et à la fin du chapitre, il nous est confirmé la réalisation de cette prophétie, verset 25. Alors Joas, fils de Joachaz, reprit à Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par ce dernier à son père Joachaz à la suite des guerres. Joas le bâtit à trois reprises et reconquit les villes d'Israël. Alors, je ne sais pas si ça vous dérange. Moi, ça me titille un peu quand même. Parce que dans un premier temps, il lui a dit « Tu les battras jusqu'à leur extermination. » Et dans un deuxième temps, il dit « Eh ben non, ça ne va pas se passer exactement comme ça. Tu les battras trois fois seulement. » Alors, pour résoudre cette énigme, je vous propose la lecture du psaume 127. Donc, je vous le lis, psaume 127. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez bien. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Le livre des Proverbes nous dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Et le livre de l'Ecclésiaste nous dit « Ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Donc nous avons ici l'éloge de l'activité, l'éloge de l'initiative. Mais le psaume 127 que nous venons de lire nous rappelle que faire sans Dieu, c'est une vanité. Faire sans Dieu, sans le consulter, sans chercher son avis, sans mettre en jeu sa volonté, Combien de fois est-ce que nous faisons cela? Combien de fois est-ce que nous prenons des décisions sans consulter Dieu? Sans demander conseil à des frères ou à des sœurs? Un peu comme si notre vie spirituelle c'était juste à l'église le dimanche et que notre vie pratique de tous les jours ne regardait que nous. Qu'en est-il de notre soumission mutuelle? Est-ce que c'est un bonus pour la catégorie élevée, pour ceux qui sont super saints? Non, c'est clairement commandé dans le Nouveau Testament. Oui, faire sans Dieu, c'est une vanité. Ce roi Joas a suivi la voie de ses pères dans le péché, dans la révolte contre Dieu, dans l'idolâtrie, dans la pratique de graves abominations. Dans quel monde est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous vivons dans un monde de péché, de mensonges, un monde d'idolâtrie, où les hommes prennent la place de Dieu, en tout cas ils cherchent à prendre la place de Dieu. Et la voix de Dieu se fait entendre, et sa volonté c'est de nous assurer la victoire. Et là on est dans le premier geste prophétique d'Élisée. Mais pensons au second geste qui implique le choix et la détermination du roi. Ce geste révélera son incapacité à réaliser son plan. Si l'Éternel ne bâtit la maison, nous pouvons nous débattre, nous pouvons gesticuler, ce sera en pure perte. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, un plan parfait, un plan d'amour. Vous connaissez probablement ce verset, Jérémie 29, 11, n'est-ce pas? « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. » Dieu a fait sa part pour le réaliser, ce plan. Mais ça n'enlève pas la part que nous avons à faire. Notre part, notre démarche d'obéissance, qui commence bien entendu par la repentance, notre démarche de soumission, sans laquelle la réalisation du projet de Dieu nous sera compromise. Oui, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je pense à cette petite parabole que Jésus dit à ses disciples, dans l'évangile de Marc, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Selon cette parabole, la part de l'homme, c'est de semer. Et la part de Dieu, c'est de faire pousser. Parfois, on cherche à intervertir les rôles, mais ça peut pas marcher. C'est si je fais ma part que je peux me reposer sur Dieu qui, lui, fera le reste. Je sais que lui fait sa part. À moi de faire la mienne. J'ai entendu récemment cette phrase. Dieu n'a pas une mission pour son église, mais il a une église pour sa mission. Dieu n'a pas une mission pour son église, mais il a une église pour sa mission. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans les œuvres qu'il a préparé pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Je reviens au psaume 127 qui nous dit que les fils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. C'est une image de force, de puissance. Comme pour une bataille que nos enfants peuvent nous aider à gagner. J'aime bien cette image des enfants comme des flèches dans un carquois qui nous conduit à considérer les nouvelles générations comme précieuses et déterminantes pour la suite et même pour le présent. Vous savez combien souvent on a entendu dire que les enfants sont l'église de demain en oubliant qu'ils sont l'église d'aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression que je touche un point sensible. Bon. Oui, l'église d'aujourd'hui. Par quelle conviction est-ce que nous allons frapper le sol avec ces flèches? Dieu a fait sa part, Dieu fait sa part, mais à nous de faire la nôtre. Par quelle foi marcherons-nous fidèlement sur le chemin du Seigneur ?